Bienvenue sur le podcast Nées en conscience. Je suis Cécile Tigoulet, musicienne et doula à Bruxelles. L'arrivée de ma fille Cerise a fait naître mon envie de rendre accessibles des témoignages d'accouchement dits physiologiques. Dans cette première saison, je reçois des femmes qui racontent leur cheminement autour de la naissance de leur bébé et partagent leurs récits d'enfantement. Le podcast idéal à écouter si vous êtes enceinte et que vous cherchez à vous réassurer dans vos capacités à accueillir votre bébé par vous-même, avec force et confiance. Marchons ensemble vers le nouveau paradigme des naissances. Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast, épisode numéro 33, durant lequel j'ai la joie d'être en compagnie de Marie-Belle. Bonjour Marie-Belle.
Bonjour Cécile.
Merci d'être là. C'est une grande joie pour moi de t'accueillir dans ce podcast. Et j'ai envie de peut-être dire quelques mots sur comment on s'est rencontrés. Ça fait quelques années en fait que je te suis sur les réseaux, puis que je te vois te déployer vraiment, je trouve, dans beaucoup de facettes. Enfin vraiment, c'est beaucoup de plaisir de te suivre. On a fait une formation aussi ensemble, Rebozo.
Oui. Ouais.
Voilà, mais donc j'ai surtout envie de te laisser maintenant te présenter comme tu veux, là, aujourd'hui, en ce jeudi 6-7 septembre. Septembre, quoi, quelque chose.
Début septembre.
Voilà, je t'en prie.
Merci. Alors, que dire pour me présenter? C'est toujours une question que je trouve super difficile. D'autant que, moi, je suis, on va dire, tombée dans le yoga depuis une quinzaine d'années. Et que j'ai été beaucoup marquée par, notamment, les écrits de Ramana Maharshi, je ne sais pas si tu vois, et qui déconstruit justement ce truc de qui suis-je pour essayer de revenir à son essence. Et donc j'ai beaucoup fait du chemin pour me libérer de toute une série d'étiquettes qu'on nous met, tu vois, tout au long de la vie, qu'on nous met et qu'on se met soi-même aussi beaucoup. Et donc je trouve vraiment que l'exercice de se présenter, c'est toujours super difficile pour comment est-ce que je me présente sans rentrer dans « alors je suis ça, je... enfin, voilà, c'est un peu... passage obligé. Mais donc, je suis maman. On va commencer par là, parce que c'est sans doute la chose la plus marquante, en fait, de mon existence, je pense, c'est d'être devenue maman. Donc, je suis maman de 3 enfants. J'ai 3 garçons qui ont 9, 8 et 5 ans. Donc, la découverte de la maternité, pour moi, ça, c'est pas si récent. Donc je suis maman de 3 garçons et ça prend beaucoup beaucoup de place dans ma vie, on va dire, d'être maman. Et à côté de ça, donc je l'ai dit, je pratique le yoga depuis des années, je l'enseigne aussi et ça prend beaucoup de place aussi. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et puis j'accompagne des femmes pour l'étiquette professionnelle, on va dire. C'est vraiment ça que je fais à temps plein. Donc j'ai été formée comme doula et puis progressivement, j'ai vraiment étendu, je vais dire, mon accompagnement au-delà de simplement la naissance parce que ça m'intéresse vraiment beaucoup, en fait, le cheminement que les femmes font autour de cette période de vie-là. Il y a vraiment, j'ai l'impression, quelque chose qui se passe... qui nous dépasse tellement, on connecte au moment de donner naissance à un enfant, on a une opportunité en fait de connecter à une dimension sacrée, à une dimension spirituelle qui est, je sais pas s'il y a d'autres moments dans la vie où on vit ça, je sais pas si les mecs vivent un truc comme ça. Je crois vraiment que c'est voilà, et c'est vraiment ça qui m'intéresse en fait, c'est tout le cheminement des femmes à partir de la maternité souvent et bien au-delà. Et c'est ce qui m'amène chez toi aujourd'hui, justement, le cheminement, celui que moi j'ai fait, du coup, depuis la naissance de mon aîné, il y a 9 ans.
Donc c'est vrai qu'on en parlait juste avant de démarrer. Je te disais, moi j'ai, justement, on parle d'étiquette, moi j'ai étiqueté podcast, accouchement, physio, mais en fait, en vrai, je suis toujours ouverte, et quand il y a une voix qui veut s'exprimer, c'est qu'en fait, elle a sa place. Donc je dis ça parce que, tu me le disais juste avant de démarrer. Moi, je n'ai pas eu des accouchements physio. Enfin, en tout cas, j'ai eu des interventions. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on n'en parle pas? Et on a décidé, donc, si tu as envie de retracer, en fait, ton histoire et ce que tu tisses aujourd'hui, en fait. Donc, est-ce que tu veux revenir à certains prémices, ce début dans la maternité? Qu'est-ce que tu as de croustillant à nous partager?
Oui, alors, donc, je disais, mon aîné, il a déjà 9 ans. Ça m'a fait un choc d'ailleurs l'été dernier parce que j'ai participé à un cercle de femmes où c'était vraiment flashant. La facilitatrice nous a invité à faire un peu un bilan. Et tout à coup, la date m'a frappée et j'étais assise à ce cercle et c'était exactement 10 ans après le moment où je me suis rendu compte que j'étais enceinte. Donc ouais, c'est vraiment flashant. William aura 10 ans en mars et donc en juillet qui vient de passer là, je suis tombée enceinte pour la première fois. alors c'est très particulier parce que moi, en fait, je voulais pas d'enfant. Je voulais pas du tout d'enfant. Je me suis jamais projetée comme maman. C'est amusant. Hein. Je voulais pas me marier, je voulais pas d'enfant. À l'époque où finalement je suis tombée enceinte, je rêvais de voyages et de vie un peu alternative. Et il se fait que j'étais avec un chéri qui, pour lui, c'était ancré, quoi. Il fallait faire des enfants. C'était vraiment, il se serait pas senti complet, je pense, sans être papa. Lui, il était prêt pour être papa depuis qu'on avait 20 ans. Et moi, pas du tout. Et donc finalement, on s'est mariés, on est partis en voyage, on a voyagé autour du monde sac à dos pendant presque un an. Et je suis rentrée avec le polychinelle dans le tiroir, comme on dit. Et donc cette première grossesse, elle était assez particulière parce que c'était vraiment une énorme découverte pour moi, mais déjà très ambivalente. Parce que je pense que j'étais pas très consciente, en fait, dans ma vie à ce moment-là. J'étais pas très présente à moi-même, j'étais pas très connectée à mon corps. ce que j'ai vécu pendant cette grossesse, c'était beaucoup des inconforts, des désagréments. Je le vivais pas comme quelque chose de chouette. Alors oui, j'étais impressionnée par la dimension magique de « il y a un être qui grandit dans mon ventre ». Mais au-delà de ça, j'étais pas... je sais pas le dire autrement, j'étais pas très, pas très présente. Et assez logiquement, du coup, aujourd'hui, c'est le regard que je porte là-dessus, en tout cas. Assez logiquement, j'ai fait un suivi de grossesse et une préparation à la naissance très classique. Ce qu'on fait, ce que les conventions nous disent de faire. Donc, j'étais suivie par une gynéco dans un hôpital privé classique. J'ai fait la préparation à la naissance qui était proposée par l'hôpital. Autant dire que ça ou rien, c'était... kiff kiff. alors ce qui était très chouette, c'est que j'ai fait des préparations en piscine. Il y avait une piscine dans l'hôpital, donc il y avait des espèces de cours de... C'était pas de l'aquagym, c'était vraiment de la prépa à la naissance. Je n'ai aucun souvenir de ce qu'on nous racontait. Je crois que c'était vraiment pas très... Enfin voilà, c'était pas dingue, parce qu'on papotait entre futures mamans dans la piscine. Donc je me suis quand même fait des copines, dont une que j'ai gardée depuis lors. Donc ça, c'est quand même très chouette de se relier à cette période de vie. Enfin, c'est déjà un peu quelque chose, je trouve, c'est frappant, quoi, que je constate encore beaucoup aujourd'hui. À quel point c'est une période où on tisse des liens qui sont forts parce que ce qu'on vit est tellement particulier et que ça nous relie hyper fort aux autres femmes qui le vivent aussi. Une préparation vraiment... ça ou rien, c'était pareil. Et j'étais dans l'optique à l'époque de dire s'il y a moyen, j'aimerais bien éviter la péri. Parce que quand même déjà, on entendait que c'était peut-être pas le truc le plus top. Je me considère pas comme quelqu'un qui gère super bien la douleur, je suis plutôt une chochotte. Et donc j'étais vraiment en mode, je vais essayer, mais en fait, j'y croyais pas trop, quoi. Et aujourd'hui, je dis aux mamans que j'accompagne, si vous dites « on verra », c'est sûr que vous l'aurez. Si vous accouchez à l'hôpital, si vous dites « on verra », peut-être que je prendrai la péri, à l'hôpital, c'est sûr que vous l'aurez, parce que, être un minimum informé, c'est indispensable, je pense, pour... pour soutenir ce genre de choix. Donc j'étais pas du tout là-dedans, j'étais pas consciente, j'étais pas très connectée à mon corps. Et j'ai vécu du coup un premier accouchement qui était, aujourd'hui je peux dire qu'il était traumatique, j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était le cas. Un accouchement très long, ça a duré je crois 36 ou 38 heures. Avec ce qu'on m'a vendu après comme étant le pire scénario, c'est-à-dire une poche fissurée, mais où on me garde à l'hôpital et où il se passe rien dans un premier temps. Et puis du coup, de l'ocytocine de synthèse pour aider, et puis je savais vraiment rien, donc je restais allongée, j'ai pas du tout bougé, j'étais seule, il y a personne qui est venu me voir, j'étais seule avec mon conjoint qui savait absolument pas ce qu'il devait faire non plus, donc qui dormait dans un fauteuil qui servait à rien. Bref, donc ça a été... une expérience d'une intensité incroyable, mais pas positive, quoi. Vraiment pas positive. Ils ils ont fini par utiliser des forceps pour que William sorte, parce qu'il était coincé dans mon bassin. En tout cas, voilà, c'est ce que j'ai eu comme écho. Je vous passe les passages vraiment désagréables de tentatives de le retourner, parce qu'il était en postérieur. Il n'était pas bien positionné, donc il me disait que c'était pour ça qu'il ne descendait pas. À l'époque, j'avais aucune idée que si j'avais été debout, que si je n'avais pas eu de péri, il serait peut-être descendu. Enfin, voilà. Mais donc, j'étais dans un truc totalement passif, en fait. Et donc sa naissance a été physiquement vraiment très douloureuse. J'ai pas pu m'asseoir pendant 2 mois. J'avais en fait le coccyx luxé, mais ça a mis super longtemps pour qu'on se rende compte que c'était ça, parce que j'étais dans quelque chose de... Bah, en fait, probablement que tout le monde vit ça, et oh mon Dieu, on m'avait pas dit que c'était aussi trash que ça, quoi. Mais je pensais que toutes les femmes vivaient la même chose, donc en fait, je mordais un peu sur ma chique, et je me disais, bah oui, voilà, ça doit être comme ça. Et j'étais un peu dans une forme de déni, c'est-à-dire que j'étais aussi complètement... C'est particulier, hein, ce truc de l'ambivalence de la maternité. J'étais en fusion avec mon bébé, j'étais un peu gaga. Et en même temps, j'avais le corps en ruine, quoi. J'avais l'impression vraiment qu'il y avait un bus qui m'était passé dessus. C'était vraiment trash. Rééducation du périnée, ça a duré des mois et des mois, avec une kiné atroce qui me disait qu'on parvenait à rien et que je récupérerais jamais. Ce qui est complètement faux, évidemment, mais à l'époque, je pensais que c'était comme ça. Et je me rends compte qu'à l'époque, j'ai fait vraiment tout un chemin depuis lors, et la personne que j'étais il y a 10 ans, waouh, j'ai l'impression que c'est il y a vraiment... c'est une autre personne, quoi. J'étais vraiment pas du tout ni informée, ni présente à mon corps suffisamment pour comprendre que ce que je vivais n'était pas normal. Et donc, j'étais tellement dans cette forme de déni que j'ai fait un deuxième in a row. Je déconseille à toutes les mamans de faire ça. Parce que déjà, pour le corps, c'est vraiment pas OK. Et puis même, voilà, juste logistiquement, ça a été quand même très compliqué. Donc, je suis tombée enceinte de mon deuxième. Mon aîné avait 7 mois. Donc, il était mini, hein. Et donc, quand mon deuxième est né, mon aîné ne marchait pas et j'avais 2 bébés. Alors, il y a plein de femmes qui font ce choix-là, hein, mais... Mais en l'occurrence, de mon point de vue aujourd'hui, je pense vraiment que c'était une forme de déni, en fait. Il y avait quelque chose de très déconnecté dans le fait de faire un deuxième enfant aussi vite. Et là, je me suis vraiment pris une claque, en fait, parce que là, pendant la grossesse, j'ai réalisé un petit peu ce que j'avais vécu pour l'accouchement du premier. Et je me suis dit, mais je veux pas revivre ça, c'est pas possible. J'ai commencé à avoir vraiment peur, en fait, vraiment peur. Et donc là, ça a été un déclencheur très très intéressant, parce que du coup, je me suis intéressée beaucoup plus à tous les impacts, en fait, de la naissance pour la femme. Je me suis intéressée au processus de la physiologie, je me suis intéressée, voilà, je me suis vraiment informée, je me suis vraiment préparée. J'étais voir une super sage-femme avec qui j'ai fait de l'hypnose, qui m'a vraiment aidée à me libérer du trauma du premier, déjà, parce que mine de rien, il y avait quand même du lourd dans ce que j'avais vécu. Il y avait de la violence obstétricale, il y avait tout ce qu'il fallait, quoi. Un bon package, voilà. J'avais quand même vraiment bien souffert. Et du coup, voilà, il y a eu quand même beaucoup à déconstruire avec cette sage-femme lors de la grossesse du deuxième. Et puis, à vraiment comprendre, en fait, comment mon corps fonctionnait, à comprendre la physio, etc. Et ça a d'ailleurs éveillé quelque chose qui était déjà, en fait, un peu présent pendant la grossesse du premier. J'avais déjà beaucoup lu, en fait, pendant la grossesse du premier, mine de rien. Mais voilà, l'élan de devenir doula, il est venu après la naissance du deuxième. Et donc, pour ce deuxième, beaucoup plus de préparation, beaucoup, beaucoup de yoga. Là, j'ai fait vraiment du yoga prénatal avec la femme qui m'a ensuite formée au yoga prénatal, avec Gina Scarito, qui est une incroyable femme que pour moi ça reste vraiment un modèle, quoi. C'est presque un mentor, c'est vraiment une femme que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup. Et elle m'a beaucoup beaucoup aidée dans cette deuxième grossesse à vraiment me reconnecter, à vraiment m'écouter et à être un peu plus dans une forme de confiance. Alors, je pense que j'étais pas encore dans une vraie forme de confiance, mais quand même, j'étais déjà en chemin par rapport à ça, de confiance par rapport à mon corps et à mes capacités. Et donc, pour le deuxième, j'ai fait le choix d'accoucher toujours dans le même hôpital, mais en salle nature. J'avais fait un projet de naissance que j'avais soumis à ma gynéco. Et j'ai eu vraiment un travail... alors, j'en ai un souvenir incroyable. j'ai passé quasi tout le travail. Alors, c'est flou hein, quand même, parce que déjà c'est flou après, parce que c'est fait pour. Hein. Mais en plus, bon, il a quand même 8 ans, donc ça remonte vachement. Mais j'ai quand même le souvenir assez précis d'avoir passé une bonne partie du travail dans une piscine à me répéter des mantras. Donc, je pratique depuis 15 ans un yoga assez peu connu, qui est le yoga du Cachemire, du tantra yoga, où on utilise énormément de mantras. Et donc, j'ai vraiment l'habitude, en fait, de faire des hamsa et de répéter ham, 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 sa, 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 ham, 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 sa, sa, sa. Et ça m'a accompagnée pendant peut-être 8 heures, 10 heures au travail, je ne sais pas. Je me suis répété ça dans un état de conscience complètement modifié, dans ma piscine. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé autour de moi. J'ai le souvenir qu'à un moment donné, j'ai utilisé la fameuse station de dilatation de mes toilettes, où j'y suis restée un certain temps aussi. Et donc, en fait, cet accouchement a été parfaitement physio et c'est super bien passé jusqu'à un moment où... Et à l'époque, je n'étais pas suffisamment informée pour comprendre... Alors, j'ai commencé ma formation de doula enceinte de Mathieu. Donc, j'ai commencé ma formation pendant cette grossesse. Donc, j'ai commencé à être vraiment, forcément fort informée de tout ça pendant la grossesse. Mais je pense que je n'avais pas encore tous les éléments. Et donc... à un moment donné de la naissance, j'ai vraiment perdu pied. Ça a vraiment été d'une intensité nouvelle. J'ai vraiment dit que je voulais mourir, que je voulais qu'on sorte ce bébé, etc. Aujourd'hui, avec le recul, c'était une phase de désespérance juste extrêmement classique. Mais à l'époque, j'en savais rien que c'était ça. Et personne autour de moi n'était là pour me dire que c'était ça et pour me dire que tout allait bien. Et là, la gynéco, en fait, est intervenue en me disant que mon bébé, son cœur ralentissait et qu'il fallait le sortir tout de suite, quoi. Et donc, elle a pris les choses en main, elle m'a remise de force en position gynéco, elle m'a fait pousser de manière vraiment forte, avec une poussée dirigée. Et donc, Mathieu est né avec l'aide de cette gynéco et une épisio. Et avec le discours après de « heureusement que j'ai été là parce que son cœur décélérait ». Alors un post-natal pour ce deuxième, atroce, c'était un bébé à besoin intense. Aujourd'hui, c'est un enfant extrêmement sensible et donc ça, voilà, ça ne m'étonne pas. Mais il y a plein de choses dont je n'avais pas connaissance qui auraient pu changer les choses, je pense, à l'époque. Mais j'ai arrêté l'allaitement après, je crois, 3 semaines ou 1 mois. Parce que c'était lui ou moi, je pleurais tout le temps, c'était l'horreur. Évidemment, le fait d'arrêter l'allaitement n'a rien changé, parce qu'on a galéré à changer de biberon 47 fois, il avait du reflux carabiné, il hurlait tout le temps, je ne savais jamais s'il avait faim, s'il était fatigué, je ne comprenais rien à ses besoins. J'avais un autre bébé qui était mini, qui commençait à avoir des problèmes de santé en prime, donc vraiment, le postpartum de Mathieu, ça a été un enfer. Mais la naissance, à part cette intervention de ma gynéco à la fin, j'en garde quand même un souvenir. C'est la plus belle naissance des trois. Puisque c'est ça à quoi je veux en venir. L'histoire que je tisse aujourd'hui, c'est vraiment les trois et le cheminement que j'ai fait avec les trois. Pour le troisième, du coup, qui est arrivé un peu plus tard, j'ai fait un choix assez différent puisque j'ai décidé d'aller accoucher au cocon. Et dans les protocoles de cocon, il y a un certain nombre de gens qui peuvent pas accoucher au cocon. Enfin, il y a un certain nombre de cas où on est écarté du cocon. Ils essayent d'avoir des grossesses non à risque, d'avoir des femmes qui vont pouvoir accoucher physiologiquement, etc. Et donc, on m'a demandé un petit peu mes historiques de naissance. Et impossible de trouver mon dossier médical, il n'existe pas. Donc ça, c'est un des grands mystères. Hein. J'ai eu 2 accouchements quand même avec beaucoup d'interventions hein, pour les 2 premiers et mes dossiers médicaux n'existent pas. Ils sont introuvables, donc ça, je trouve ça assez interpellant. J'avais aucune idée à l'époque que ce que j'avais vécu pour Mathieu, en fait, ça avait un nom, ça s'appelait une dystocie d'épaule. J'ai pas dit, mais Mathieu avait la clavicule cassée quand il est né. Donc ils ont dû, la gynéco est intervenue pour le faire sortir, m'a fait une épisio et a fait une espèce de manipulation avec mes jambes. Moi, j'ai rien compris à l'époque, mais voilà, pour le faire sortir. Et puis, il avait une clavicule cassée, quoi. Et au moment de ma grossesse du troisième, on me demande un petit peu pour le deuxième, comment ça s'est passé, pour le premier, tout ça, pour savoir si je suis éligible au cocon. Et comme il n'y a pas de dossier médical et que moi, à l'époque, j'ai une lecture des choses qui est teintée de « je viens de devenir doula », Et donc, je comprends que, en fait, ce qui s'est passé pour mon deuxième, c'est une gynéco trop interventionniste. Le cœur de mon bébé décélérait, mais c'est normal puisqu'il était dans mon bassin, et donc pourquoi est-ce qu'elle est intervenue, etc. Et donc, je ne dis absolument pas aux sages-femmes qui m'accompagnent au cocon que c'était une dystocie d'épaule, parce que c'est un terme que je connais pas vraiment à l'époque, et que j'ai aucune idée, en fait, que c'est une complication, que ça a un impact, etc. Donc, je ne le dis pas. Et donc, je suis éligible au cocon. Et donc, Owen est né au cocon, et la naissance d'Owen a été beaucoup plus compliquée que la naissance de Matthew. Ça a été un accouchement très très long, et... Alors, physio, jusqu'où est-ce que c'est physio? C'est une question que je me pose aussi. Donc, il y avait la sage-femme qui était de garde au moment où l'accouchement, où le travail se met en route, est restée un certain nombre d'heures, et puis il y a eu un shift, parce que mon accouchement était long, et donc c'est une autre sage-femme qui est venue prendre le relais, c'était Michelle à l'époque, la chef de service du cocon. Et une autre sage-femme qui faisait les consultations au cocon, qui était devenue une amie, parce que c'est celle qui a fait ma rééducation du périnée après mon deuxième, en tant que je suis en travail, voilà, et donc a lâché les consultations pour venir me soutenir. Et donc j'avais deux sages-femmes. Mon mec était HS, il dormait, il ne servait à rien. Mais j'avais deux sages-femmes pour me soutenir. Et malgré tout, c'était vraiment compliqué. Je suis restée dans le bain pendant des heures. À un moment donné, elles m'ont demandé si je voulais savoir où j'en étais. Et j'ai dit oui, parce que j'étais fatiguée et que j'en pouvais plus. Et j'en étais genre à un truc, je sais plus, mais genre à 3 cm. Donc c'était la déprime, parce que ça, ça n'avançait pas. Et là, tu te dis, c'est mon troisième. Je suis doula, je me suis préparée, je suis au cocon, j'ai deux sages-femmes pour me soutenir. What the fuck? C'est quoi le problème avec moi, quoi? Et puis là, Pascal m'a forcée à sortir de la piscine. C'était l'horreur, hein. Sortir de cette piscine, c'était vraiment dur, j'étais dans la pénombre depuis des heures, mais ça ne bougeait plus, donc voilà. Elle m'a forcée à sortir, elle m'a rhabillée sommairement, et elle m'a mise sur une chaise roulante de l'hôpital, elle m'a mis un truc sur la tête, parce qu'il était 8h du matin, donc c'est l'heure de pointe à Erasme, et elle m'a fait sortir, c'était début avril, elle m'a fait sortir sur le parking, et prendre l'air frais, et changer d'énergie, en fait. Et ce truc a été magique, ça a été incroyable. J'étais à peine sur le parking, elle m'a amenée du côté du parking où il n'y avait personne, hein, quand même. Quand même, elle ne m'a pas amenée devant. Elle m'a amenée dans un coin, voilà, dans un coin un peu discret. Et elle m'a fait descendre de cette chaise roulante. Elle m'a fait, maintenant, tu marches. Et j'ai marché quelques pas. Et d'un coup, poum, c'est parti. Le travail est reparti, mais à fond. Donc, j'étais genre méga reconnaissante à cette sage-femme qui a eu l'idée que je trouvais de génie, de me faire changer d'énergie, de me faire bouger, tout ça. Donc on est revenu dans la chambre, et puis ça a encore duré quand même longtemps, mais voilà, ça avançait. J'avais ces deux sages-femmes avec moi, mais j'ai vraiment le souvenir de, pour mon deuxième, je n'ai pas le souvenir de la douleur, de tout le travail, à part ce moment où je me vois encore... sur cette table où la gynéco me dit « je vous mets en position gynéco » ou me force à me tourner pour me mettre en position gynéco, où là, je me souviens que c'était d'une intensité insoutenable et que c'était vraiment douloureux. Mais pour tout le reste, le travail de Matthew, j'ai ce souvenir d'être dans une autre dimension avec mes mantras dans ma piscine, et j'étais bien, quoi. Et j'étais connectée avec mon bébé et tout ça. Et ici, pour le troisième, pas du tout. Et donc, super frustration, parce que t'as un troisième, tu te dis que ça va rouler, que ça va être un toboggan, et pas du tout. Donc, alors je pense qu'il y avait aussi une dimension justement que je cogitais vachement, en fait, là-dessus, sur le fait de mes attentes, qui du coup étaient vachement élevées. Et aujourd'hui, je me dis, mais en fait, ouais, il y a cette phrase qu'une amie m'a transmise il y a peu de temps et qui résonne tellement depuis quelques temps, c'est « We give birth like we live ». Mais c'est tellement... Enfin voilà, c'est tellement vrai. Et en fait, ce que je tisse aujourd'hui, c'est vraiment... Mais je vais y revenir... C'est ce troisième bébé, en fait, c'est mon conjoint qui le voulait. Moi, j'en voulais pas. Et puis, je me disais quand même, ouais, je veux quand même un petit troisième. Mais pas maintenant. Je m'étais lancée professionnellement comme indépendante. Et je me disais, si je le fais pas maintenant, en fait, je le ferai jamais. Et du moment où je suis tombée enceinte, j'ai pleuré. Toute ma grossesse, j'ai pleuré en me disant, qu'est-ce que j'ai fait? Mon couple allait pas bien. Je savais que ça allait nous mettre dans le mur. On avait des problèmes de santé avec l'aîné. Enfin, c'était compliqué. Et en fait, ben, cette naissance de Wen, elle était à l'image de cette grossesse et de comment j'allais dans ma vie à ce moment-là. Mmh. Et voilà, c'est vraiment, je trouve, interpellant de voir ça avec du recul aujourd'hui, 5 ans plus tard. Mais donc, j'en arrive à la fin du travail. une phase de désespérance de nouveau vraiment hyper compliquée. Alors là, je sais ce que c'est. Pour la naissance d'Owen, je suis informée.
Vous étiez remontée là, vous étiez plus sur le parking.
Non, on n'était plus sur le parking. On était remontées et après, elles m'ont vraiment fait bouger pour le faire descendre. Je me souviens de m'être accrochée aux rambardes des couloirs du cocon en squat et Michel qui me disait vraiment vas-y, il faut qu'il descende. Dans cette position atroce où tu te dis vraiment genre ok, je sens vraiment que là il est dans mon bassin, je sens que, mais c'est là qu'il faut aller quoi, là où c'est intense, c'est là que tu dois aller, oh putain je dois aller là, non mais en fait, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que là il y a quelque chose en moi qui vraiment qui bloque quoi, et je dis, je verbalise, j'ai peur, et là Michel me dit mais de quoi est-ce que tu as peur, et je sais pas lui répondre, je suis là, je sais pas, et ce moment vraiment de la fin de ce travail et de l'accouchement d'Owen est vraiment teinté de ça, de cette angoisse de « mais je sais pas ce qui se passe en fait ». Il se passe un truc, il y a un truc qui bloque. Et de nouveau, c'est l'idée de « c'est moi qui ai quelque chose qui cloche quoi ». Et voilà. Et finalement, j'ai poussé, je pense, pendant... Je sais pas, parce qu'on est au cocon, donc je sais pas combien de temps ça a duré, mais... Je pense que j'ai peut-être bien poussé pendant 2 heures. Ce qui est pas du tout physiologique en soi. Mais voilà, elles ont tout essayé. Elles m'ont mis dans toutes les positions possibles. On a essayé avec le tabouret d'accouchement là. Enfin, tout plein de choses, elles ont essayé. Et finalement, y a une gynéco qui a débarqué. Alors c'est cas exceptionnel au cocon, parce que normalement au cocon, quand il y a un souci, il transfère en salle d'accouchement. Alors moi, mon bébé, il était clairement là. Et donc, je pense qu'elles ne pouvaient plus me transférer. Donc, elles ont été chercher la gynéco. Je ne sais pas qui c'est, cette gynéco, mais je m'en souviens très précisément. Elle est arrivée en pestant, en disant « Mais ça ligne beaucoup trop bas. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ?» Et donc, moi, j'étais déjà dans un bad pas possible depuis 2 heures. C'était pas génial. Bon, voilà. Et puis, elle m'a fait une espèce de manip avec ma jambe. Tiens, tiens, ça me rappelle quelque chose. Pour faire sortir mon bébé, et en fait, ben voilà, Owen aussi, c'était un bébé avec une dystocie d'épaule. Et ce truc-là, ça m'a vraiment travaillé pendant mais méga longtemps. Pourquoi est-ce que je fais des bébés dystociques? Parce que dans ma tête, c'était « je fais des bébés dystociques », c'est moi qui ai un truc qui cloche, quoi. Et ce qui a contribué vachement à ça, c'est tout le chemin que j'ai fait après. Quelques mois après la naissance d'Owen, j'ai repris... les cours et repris ma vie professionnelle. Et je donnais cours de yoga et Michel est venu à mes cours de yoga. Et donc je la revois et on discute après le cours, on discute un peu de tout et de rien et comment ça va et comment va bébé, etc. Et puis elle me dit au détour de la conversation, elle me dit mais tu nous as quand même bien nus. Et je dis quoi? Elle me dit bah oui, ton deuxième c'était une dystocie d'épaule. Et je dis, bah oui, probablement, Michel, mais j'en savais rien. Enfin, j'étais pas... Elle me dit, bah oui, parce que si on l'avait su, t'aurais pas été éligible au cocon. Et je reste là avec cette information, genre, mais quoi? Et puis là-dessus, elle me balance... C'est ça vraiment... Enfin voilà, à la fois, comment est-ce qu'elle a osé? Mais c'est Michel. Mmh. Et à la fois, je la remercie, parce que ça a initié un truc incroyable... chez moi, un cheminement vraiment, mais c'était quand même un peu trash la façon dont elle me l'a dit. Donc là, elle m'a dit, mais tu sais, nous, les professionnels de la naissance, les sages-femmes, on sait ce que c'est, les dystocies. Et je dis, quoi, on sait ce que c'est? Bah oui, on sait bien, les femmes qui donnent naissance à des bébés dystociques, on sait bien ce que c'est. Mais dis-moi, Michel, je ne sais pas. Et elle me dit, c'est des femmes victimes d'abus. Bam! Le pavé dans la mare, quoi. Donc je reçois ça en sortant d'un cours de yoga, vraiment... comme ça, et en fait ça a été un déclencheur vraiment incroyable pour moi d'un chemin de guérison. Alors le déclencheur ça a été la naissance d'Owen bien sûr, mais ce que Michel m'a dit ce soir-là, ça a été vraiment assez fort pour moi, d'un chemin de guérison incroyable que j'ai fait en fait depuis 5 ans. Owen est vraiment la naissance d'Owen. Je me suis demandé pourquoi je l'avais fait, toute la grossesse, je me suis demandé mais pourquoi je fais ce troisième bébé, et j'ai eu cette naissance qui était compliquée. Après, on est allé en néonat en plus. Enfin, voilà, ça a vraiment été pas simple. Et plein de fois, je me suis dit, mais en fait, mais pourquoi? Pourquoi je me suis infligé tout ça, quoi? Et pourquoi ça s'est pas passé comme ça? Et pourquoi je fais des bébés dystociques? Et en fait, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression d'avoir d'avoir défait une pelote de laine énorme dans laquelle, en fait, j'avais vécu jusque-là. Et d'avoir, mis en lumière des choses en moi que je ne soupçonnais pas, mais du coup, de m'être comme révélée à moi-même, quoi. Il y a quelque chose qui est sorti de ça, qui est incroyablement positif. C'est que, oui, j'ai vécu des naissances avec des interventions, et oui, j'ai vécu des postpartum compliqués, et oui, la maternité, pour moi, pendant des années, ça a été genre, oh, putain, en fait, c'est dur d'être maman. Je suis pas faite pour ça, je voulais pas d'enfant. Et aujourd'hui, c'est, bah ok, en fait, maintenant, je comprends pourquoi je les ai faits. Je comprends pourquoi je les ai faits, parce qu'il y a vraiment quelque chose d'extrêmement profond et puissant que je suis allée chercher suite à ça. Cette phrase que Michel m'a dite, elle a été vraiment le départ de tout un cheminement où j'ai rencontré plein de gens, où j'ai... Alors, l'univers met sur notre chemin des choses qui sont... Enfin, moi, je crois pas au hasard, quoi. Suite à ça, là où je me forme au yoga, là où je continue à aller à l'ashram dans le sud de la France, j'ai rencontré une femme qui était gynéco à la retraite et avec qui, j'ai eu un contact incroyable que j'ai revu à de nombreuses reprises et avec qui j'ai vraiment, justement, commencé à dérouler cette pelote de laine de toute l'histoire de ma famille, de mes lignées, de tout ce que je portais, de tout ce qui était inconscient, de tout ce que mon utérus et tout ce que ma yoni portait et de tout ce qui, en fait, a été réveillé par la naissance de mes trois enfants et que j'ai pu, en fait, depuis lors, libérer. Alors, je pense pas que j'ai tout libéré, mais, mais j'ai déjà libéré énormément. Et voilà, parce que cette gynéco, elle a travaillé dans tout ce qui est justement l'impact des violences sur les femmes et sur les naissances toute sa vie. Elle a même créé je sais pas comment ils appellent ça en France, mais un certificat interuniversitaire pour la prise en charge des violences faites aux femmes en périnatalité. Et de à quel point, en fait, les abus de toute forme, hein, pas uniquement les abus sexuels, mais entre autres, évidemment, les abus sexuels, pouvaient avoir un impact sur les naissances. Et c'était incroyable pour moi de discuter avec cette femme scientifique, gynécologue, obstétricienne, qui était convaincue de à quel point on pouvait, en fait, porter des choses qui nous appartenaient pas, qui n'étaient pas forcément... Que plein de femmes, en fait, peuvent vivre des naissances comme moi j'ai vécu, sans avoir été elles-mêmes victimes d'abus, mais juste d'avoir porté quelque chose de leur lignée. Et du coup, de vivre... Alors, il y a cette phrase qui m'a longtemps embêtée, de dire ben, « on vit la naissance qu'on doit vivre ». Bah, quand tu vis des naissances comme les miennes, t'as pas trop envie qu'on te dise ça, parce que t'es là, bah, pff, ouais, j'aurais préféré un truc un peu plus physio, un peu plus facile, un peu plus machin. Mais en fait, aujourd'hui, ça fait complètement du sens pour moi de me dire ben, « oui, en fait, je pense que j'ai vécu ce que je devais vivre pour justement aller chercher ces... aller chercher vraiment toute cette histoire de ma famille, de mes lignées, aller déconstruire des choses, aller nettoyer vraiment... voilà, aujourd'hui, je me forme en womb healing. Ça définit aussi, bah forcément, parce que ce qu'on traverse, ça nous amène à avoir envie de le transmettre. Mmh. Et donc aujourd'hui, je prends ce chemin-là, quoi. J'accompagne les femmes. Et c'est amusant, ces derniers mois, toutes les femmes qui viennent à moi, c'est des femmes avec des parcours, alors pas similaires aux miens, mais où il y a quelque chose qui résonne et où justement je peux leur apporter quelque chose en lien avec cette question de « mais en fait, qu'est-ce que je porte, quoi ?» qui n'est pas forcément conscient, enfin voilà, qui n'est pas quelque chose forcément qu'on a vécu soi, enfin, ça peut être vraiment des choses qui sont transgénérationnelles, qui sont... Voilà, depuis qu'Owen est né, j'ai été explorer des tas de choses. J'ai fait de la psychologie généalogie, j'ai travaillé avec des plantes de médecine, j'ai fait du breathwork, j'ai été vraiment explorer plein de choses. Et c'est un chemin de reconnexion à soi et de presque de réensauvagement de ma vie qui est juste, enfin, pas presque en fait, qui est complètement de réensauvagement de ma vie, qui est juste incroyable.
Mmh, magnifique. Et j'ai envie de te poser une question, si tu me le permets. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu te définis comme doula? Parce que tu dis « j'accompagne les femmes », est-ce qu'il y a une étiquette? On revient sur les étiquettes, mais comment tu décris cette palette, en fait, d'offres extraordinaires qui découle, en fait, c'est ce que j'entends là maintenant, après tout ce que tu viens de témoigner, mais qui découle pleinement de toi, en fait, de tout ce que tu as vécu, de tout ce que tu as à transmettre. Et comment est-ce que tu... quel mot tu aurais envie de poser sur ce que tu transmets aujourd'hui, sur tes accompagnements si t'as envie d'en parler, parce que c'est quand même une facette importante de ta vie, j'ai l'impression, quand même.
Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, vraiment, ce qui m'intéresse, c'est l'empouvoirment. C'est vraiment d'accompagner les femmes à se reconnecter à leur pouvoir, Et ça passe pour moi par effectivement se reconnecter à son ventre et à sa yoni, quoi. J'ai commencé par dire que j'étais déconnectée de mon corps avant de donner naissance à William. Mmh. Et pour moi, la naissance de mes trois enfants, elle a eu vraiment cet impact-là, de me dire, mais en fait, j'ai un vagin, j'ai une vulve. Et aujourd'hui, c'est des mots que je sais dire. Il y a 10 ans, j'étais incapable de dire vagin ou vulve. Mmh. Je suis même pas sûre que j'étais capable de dire utérus, tu vois. Et vraiment, pour moi, il y a... Enfin voilà, tout ce que j'ai vécu aussi en termes de... Alors, mon périnée, il a morflé, comme je l'ai dit, pour le premier. J'ai eu énormément de rééducation. Alors, du coup, j'ai exploré tout ce qui existe en matière de rééducation du périnée. Mais ça a été super instructif, en fait, parce que j'ai vraiment fait un chemin de reconnexion, du coup, à vraiment à mon bassin, quoi. Et à mon bassin et mon ventre. Et je pense vraiment que la puissance des femmes, elle vient de là. En tantra, en tantra matriarcal, on considère que les deux premiers chakras, chez les femmes, ne font qu'un. Donc, le yoga qui est le yoga moderne, ça va certainement résonner avec toi, Cécile. Le yoga moderne, moi, je le considère vraiment très yang et très patriarcal. C'est une discipline qui a été transmise par des hommes pour des hommes. Aujourd'hui, en Occident, il n'y a que des femmes qui font du yoga, mais de base, c'est vraiment quelque chose de masculin. Et la structure, enfin l'anatomie, l'image qu'on a avec les chakras, c'est d'ailleurs toujours un homme qui est représenté, hein, c'est jamais un corps de femme avec les chakras.
Vrai, j'ai jamais capté. Mais...
C'est jamais un corps de femme. Et en fait, en tantra, il y a cette idée, moderne évidemment, mais de dire que les deux premiers chakras ne font qu'un, et on peut même l'appeler yonistana, donc à la place de Muladhara chakra et de Svadhisthana chakra, donc qui sont le chakra racine constitué au niveau du périnée et le chakra sacré constitué généralement derrière le pubis, bah chez la femme, en fait, ces deux chakras sont un, et c'est vraiment son centre. Chez la femme, il y a à la fois la terre et l'eau, il y a vraiment ce centre de la créativité, à la fois de la créativité de faire la vie, et de la créativité dans toutes les formes qu'elle peut avoir, et on le situe au niveau du col de l'utérus. Et vraiment, tout ce chemin que j'ai fait, moi, c'est de conscientiser le fait que le passage dans mon vagin de mes bébés a réveillé des choses, quoi. A réveillé des choses énergétiques, des choses vraiment profondes, des choses qui sont là à cause de mes mères et de mes grands-mères et de tout ce qui a été vécu avant moi. Et j'en ai des frissons en te le partageant parce que c'est tellement ça que je ressens et c'est vraiment ça que j'ai envie d'incarner aujourd'hui. C'est d'amener les femmes à se reconnecter à ça, en fait, à ce premier chakra féminin, j'ai envie de dire, de réveiller cette zone-là chez elles et de pouvoir, chez moi, ça a permis de me libérer par rapport à tellement d'attentes de la société, tellement de choses... ça se manifeste de plein de manières différentes, mais je me suis séparée du papa de mes enfants. Et en fait, dans mon histoire, ça a été une forme de soulagement et de libération, mais vraiment plus de libération, j'ai envie de dire, incroyable. D'avoir la force de dire non à... En fait, à l'époque... Alors, je regrette absolument pas, le père de mes enfants est un homme incroyable, il s'occupe super bien de mes enfants, il est génial à plein de points de vue, mais j'ai été le chercher dans ma vie à un moment pour vraiment remplir un besoin de sécurité, de vraiment de safety, quoi, J'étais insécure et j'avais besoin de stabilité et d'un homme qui soit sérieux. Et ça venait, en fait, je pense, répondre à tous ces trucs que je portais. Tous ces trucs qui ne m'appartenaient pas, mais qui faisaient que j'étais fondamentalement insécure depuis toujours. Et que je suis rentrée dans son schéma parce que moi, je n'avais pas de schéma. Moi, je ne voulais pas d'enfant. Moi, je ne voulais pas me marier. Lui, il voulait ça et c'est ce que tout le monde faisait. Et donc, j'ai un peu suivi le truc parce que ça me paraissait être ce qu'il fallait faire. Et je pense que ça m'a super bien convenu pendant des années. Et vraiment, je répète, j'ai aucun regret. Et ça reste un homme incroyable. Mais je me sens tellement fière aujourd'hui d'avoir pu dire, en fait, aujourd'hui, je veux plus cette vie-là, quoi. Je veux autre chose, je veux vivre pour moi, selon mes codes. Et je pense que, en fait, ce que je trouve génial, c'est que je vois aujourd'hui des témoignages de femmes qui donnent naissance à la maison, qui donnent naissance de manière puissante et qui disent vraiment à quel point ça les reconnecte à leur puissance. Mais en fait, je réalise que moi aussi, ça m'a reconnecté à ma puissance, même si c'était pas physiologique, même s'il y a eu des interventions. En fait, les naissances de mes bébés m'ont reconnecté à ma puissance de femme, m'ont reconnecté à ma créativité, m'ont reconnecté à la confiance, à vraiment quelque chose de... à mon feu intérieur, en fait. À vraiment, ouais, ce... cette énergie vitale que j'ai aujourd'hui et que j'avais pas du tout avant, quoi. Je sais pas si j'ai répondu à ta question.
Oh, j'ai oublié ma question. Je sais même plus ce que c'était ma question.
Tu me demandais comment je définissais je vais quand même répondre à ça parce que je trouve ta question vraiment intéressante. Je ne sais pas si je suis encore doula. Je pense que c'est profondément ancré en moi que j'ai toujours été doula, dans le sens de la doula qui est une femme qui accompagne une autre femme. Je pense que j'ai toujours été très douée pour écouter vraiment, pour écouter avec mon cœur. Je suis empathe. Alors ça, par contre, j'ai dû le travailler, hein, parce que la doula empathe qui veut sauver tout le monde, hein, souvent, quand on est empathe, on se met fort à la place de l'autre et on veut le sauver. Donc ça, c'est quand même quelque chose... Il n'y a personne à sauver, quoi. Ça, c'est quelque chose que j'ai dû beaucoup travailler. Mais voilà, je pense que j'ai toujours été doula dans l'âme, quoi, dans le fait d'être là pour les autres femmes. Et vraiment, je me sens tellement portée par ces espaces-là, par la sororité, par le partage entre femmes, par les échanges de cœur à cœur... C'est vraiment quelque chose qui est au cœur de ma pratique. Et en même temps, je pense qu'aujourd'hui, la doula, elle a souvent un rôle qui est limité, justement, à la naissance. Alors bien sûr, des quantiques doulas ont une vision tout à fait beaucoup plus large. Et je vais dire, je me retrouve beaucoup plus dans cette vision-là, quelque part. En tout cas, je ne me retrouve pas dans une vision de la doula qui voudrait être seulement la gardienne de l'espace d'une femme qui enfante contre... quelque part un système. Et à la fois, je pense que cette doula est complètement nécessaire. Complètement. Parce que le système est ce qu'il est. Qu'aujourd'hui, dans les milieux hospitaliers, ben, on fait du business. Hein, le temps, c'est de l'argent. Que les femmes doivent enfanter vite. Il y a des protocoles. Voilà. Et j'accompagne encore aujourd'hui beaucoup de femmes et de couples sur le cheminement autour de la naissance. Et après... mais c'est vrai que petit à petit mon positionnement il est de plus en plus sur cette dimension vraiment de reconnexion au sacré. Pour moi c'est vraiment une occasion d'ouvrir un chemin spirituel, de se reconnecter à cette puissance, de se reconnecter à l'énergie aussi. Enfin, il y a quelque chose au niveau énergétique vraiment qui m'intéresse beaucoup. Je travaille beaucoup avec ça en yoga, mais pas seulement, je fais aussi des soins énergétiques. Et c'est vrai que voilà, toutes ces dimensions-là de vraiment la femme qui est sur ce chemin autour de la maternité, parce que je pense que c'est une occasion géniale pour découvrir tout ça. Et donc mon public, on va dire, pour le dire de manière c'est effectivement des mères ou des futures mères ou des femmes qui ont un désir d'enfant. Mais ce à quoi je vais les accompagner, en fait, les femmes qui viennent à moi récemment, j'ai plus en fait de demandes de femmes qui viennent juste pour un accompagnement doula classique, je vais dire, tu vois, qui viennent juste genre « Ah, j'ai besoin d'une doula ». Non, j'ai des trucs plus compliqués, j'ai envie de dire. Mm-hmm. J'ai des femmes qui viennent à moi qui ont un vécu, qui ont un passif, qui ont des choses qu'elles sentent qui vont les bloquer, qui ont envie de travailler certaines choses, qui ont envie d'aller chercher, voilà, de se connecter à une dimension plus spirituelle. Ou là, bah, j'ai par exemple une femme qui ça parle vraiment toute la dimension quantique de la naissance, tout le vortex, et qui est vraiment intéressée de se préparer à ça, qui a énormément de questions sur justement la connexion au divin à travers l'enfantement, en fait. Et voilà, ça me passionne, quoi. Ça, je trouve ça juste, en fait, dingue. Comment on peut... en fait, de nouveau, en tantra, on considère qu'il y a trois plans de conscience. Le premier plan de conscience, c'est le plan matériel. C'est le plan du corps, mais c'est aussi le plan du mental. Le mental, on considère que ça fait partie du matériel. C'est le plan auquel on a généralement accès, et la plupart des yogas modernes, en fait, ça se limite à ce plan-là. On est sur développer le corps, conscience du corps, la conscience des besoins du corps, donc la nutrition, contrôler ses pensées, parce que les pensées sont créatrices, etc. Tout ça, c'est le plan du corps. C'est le plan matériel, ce premier plan de conscience, qui est, on va dire, relativement facilement accessible, mais en fait, bah, beaucoup de gens loin de nos milieux... Enfin voilà, moi je suis dans le bien-être, dans le yoga, dans la périnette, j'ai quand même beaucoup de gens autour de moi qui sont relativement éveillés en termes de nutrition, qui font du yoga, machin. Il y a quand même encore énormément de gens qui sont pas du tout là-dedans. Mais donc c'est le premier step, on va dire, la première étape, plan de conscience du corps, le plan de conscience matériel. Le deuxième plan de conscience, c'est le plan de conscience de l'énergie. C'est quand on se rend compte qu'en fait, le corps fait partie d'un tout et qu'il n'y a pas vraiment de distance, de séparation entre mon corps et ce qui est à côté. Les atomes de mon corps sont les mêmes que les atomes de l'air autour de moi, de l'eau que je bois, etc. C'est vraiment la dimension énergétique. Tout est onde tout est énergie. Et le troisième plan, c'est le plan du divin, c'est le plan spirituel, quoi. Et voilà, et moi, ce qui m'intéresse, c'est d'explorer ces trois plans. J'ai pas envie de me limiter au premier.
Alors, il y a quand même quelque chose que j'avais envie de...
j'adore.
De partager ici.
Je vais refaire un... non, j'ai même pas besoin de refaire un enfant, c'est ça qui est génial. Je peux commencer maintenant.
C'est vrai.
Le chemin, il commence... en fait, il commence à naissance.
Je pense que c'est intéressant,
en fait,
ouais. Facilite depuis quelques mois des retraites prénatales avec Roxane de Sauvage. Qui, alors peut-être que dans celles qui vont écouter le podcast, il y en a certaines qui la suivent, c'est Maternité Sauvage sur les réseaux. Et elle a une particularité, c'est qu'elle n'est pas doula, elle est birthkeeper, et elle accompagne des femmes qui décident d'enfanter librement. Et elle a elle-même enfanté librement pour sa deuxième fille. Donc elle a fait ce qu'on appelle un ANA, un accouchement non assisté. Pour lequel elle s'est beaucoup, beaucoup préparée. Les femmes qui font ça font pas ça à la légère. et c'est une femme qui a une énergie de dingue et que j'ai rencontrée pendant le Covid parce que voilà, j'avais besoin à ce moment-là de me connecter à des gens qui avaient les mêmes valeurs que moi et qui étaient un peu anti-système, on va dire, pour le dire. Voilà. Et je la suivais sur les réseaux et donc j'ai pris contact avec elle. Parce qu'elle avait partagé des trucs qui résonnaient et je me suis juste dit, bah en fait, avec mon chéri, on était en mode. On vivait dans notre grotte, on voyait plus personne, parce que beaucoup de gens de notre entourage n'avaient pas les mêmes convictions que nous et donc c'était compliqué. Et j'étais vers elle en mode, bah en fait, salut, je te suis depuis longtemps, t'as l'air cool, ce serait cool de se rencontrer. Genre, voilà, Instagram, ça sert aussi, c'est un réseau social, ça sert à faire du social. Donc il y a plein de gens que j'ai rencontrés comme ça en les contactant en fait par message sur Insta. C'est un truc que je fais assez souvent. Quand j'ai vraiment un élan vers quelqu'un que je suis sur Insta, ben à un moment donné, s'il est en Belgique, je le contacte, quoi. Okay, ouais. Parce que je trouve ça dommage de rester sur un truc virtuel, en fait, et de pas se rencontrer en vrai, quoi. Et donc on a été rencontrer Roxane et Pierre à une de leurs réunions unschooling, puisqu'elle a aussi décidé de pas scolariser ses enfants. Et voilà. Et on a super fort accroché direct. Et puis ce jour-là, elle m'a annoncé qu'elle était enceinte du deuxième. Et du coup, elle m'a dit « Ah, mais je comptais justement venir à tes cours de yoga. » Et donc, elle est venue faire du yoga prénatal pendant toute sa grossesse de Pénélope. Et donc, je savais qu'elle préparait un ANA. On avait vraiment sympathisé. Donc, elle restait systématiquement après le cours. On papotait à deux. Et ça me faisait vraiment réfléchir, cette histoire d'ANA. Parce que, de base, je suis plutôt quelqu'un... Enfin, de base, ouais, donc... Si on reprend mon historique, hein, il y a 10 ans, mais encore il y a 5 ans, je pense, j'aurais pas pu, moi, faire le choix. Déjà, accoucher à la maison. Alors, déjà, quand je suis tombée enceinte de William, pour moi, les doulas, c'était des you-you complètement tarés, hein, déjà. Et puis, même encore il y a 5 ans, accoucher à la maison, je trouvais qu'il fallait être un peu givré, quoi. Je trouvais que c'était pas sécure, voilà. Et donc je me retrouve, voilà, j'ai fait du chemin, quoi. Hein. Je me retrouve à être pote avec une nana qui prévoit d'accoucher à la maison, et en plus sans personne. Donc ça me faisait vachement réfléchir, et plus on discutait, plus elle me racontait son cheminement et son travail en tant que birthkeeper, plus je trouvais que ça faisait du sens, en fait. Et puis, on a continué à se voir au cours de yoga, puis elle est venue faire du post-natal, et puis on s'est vus en dehors, et puis elle a participé l'année dernière à Éclosion, qui est un programme pour les femmes que j'organise, justement dans l'idée d'être plus proche de ce nouvel accompagnement dont on parlait. Et voilà, et là, il y a vraiment eu un déclic de dire, ok, on va faire un truc ensemble, quoi, il y a quelque chose qui marche vraiment, et donc on a décidé de lancer des retraites prénatales, et je lui ai proposé qu'on fasse ça ensemble. Et elle a accroché tout de suite à l'idée, évidemment. Et moi, c'était quelque chose que j'avais déjà essayé de lancer avec une autre amie que j'adore aussi, mais où ça n'avait pas pris, ça n'avait pas marché. Et je pense pour une raison très claire, c'est qu'en fait, y a une histoire de positionnement, quoi. Justement, quelle est l'histoire que tu racontes, etc. Et moi, les femmes que j'accompagne à Naissentiel, Naissentiel est un centre périnatal où je travaille comme prof de yoga et comme doula. Et il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de femmes qui font un choix d'accouchement à l'hôpital, il y a beaucoup de femmes qui choisissent des hôpitaux très médicalisés, Il y a aussi quelques femmes qui font des choix, on va dire, un peu plus alternatifs, hein, même si pour toi et moi, ils peuvent paraître... Mais par rapport à la masse de gens, finalement, à l'heure actuelle, des accouchements physio et des accouchements à domicile, ça reste quand même une minorité de gens. Et donc, dans ces femmes-là, en fait, il n'y avait pas le public pour une retraite prénatale. Parce que, parce qu'en fait, quand tu ça va ensemble, quand tu fais un choix de... Je constate hein, que quand tu fais un choix de naissance plus classique, un suivi gynécologue, etc., bah, c'est assez rare en fait que tu sois attiré par une retraite prénatale. Ça peut arriver, mais c'est assez rare. Mais donc voilà, cette première tentative avec Perrine n'avait pas fonctionné, et donc je me suis tournée vers Roxane, qui elle était tout de suite super motivée, et où je me suis dit, ah bah super, elle en fait, vu son positionnement de birthkeeper, elle va avoir en fait des femmes qui seront intéressées, et donc nous deux ensemble, ça va être super complémentaire. Et bon, je savais aussi qu'en termes de transmission, ça allait être super complémentaire, c'était surtout ça évidemment qui m'intéressait hein, quand même. Mais voilà, et donc on fait cette première retraite, on en a déjà fait plusieurs depuis lors, mais on fait cette première retraite, et en fait, lors de cette première retraite, il y a deux choses qui se sont passées qui étaient assez interpellantes pour moi a posteriori. La première, c'est que on a lu un texte, je pense que ça s'appelle « Histoire de chat », qui est un texte qui est en gros une analogie qui parle de chattes qui mettent bas dans la nature de manière sauvage, et puis à un moment donné, on veut optimiser la manière dont elles mettent bas, si je me souviens bien du texte. Et puis donc on les met dans un labo, et puis ça foire complètement, et il n'y a plus rien qui marche, et ces petites chattes ne savent plus mettre bas, et voilà. Et donc c'était au tout début de la retraite, c'était le démarrage de la retraite, on a lu ce texte, et en gros c'est vraiment une analogie de la situation aujourd'hui dans les hôpitaux, qui deviennent, comme je disais tout à l'heure, un peu des gros business, et donc où on fait du chiffre quelque part, enfin c'est très radical de le dire comme ça, mais aujourd'hui c'est quand même, je pense, une réalité. Et voilà, cette histoire de chat parlait un peu de ça, et donc vantait les mérites de finalement une naissance complètement libre et de laisser ces petites chattes faire elles-mêmes, parce qu'en fait, elles savaient très bien faire elles-mêmes. Et dans les femmes qui étaient présentes à cette retraite, c'est pas forcément bien passé. En tout cas, c'était mon sentiment. Je sais plus si on a eu des retours de certaines par rapport à ce moment-là précisément, mais je sais que moi, je me suis sentie mal à l'aise. D'avoir choisi de lire ce texte, parce que je me sentais jugeante par rapport au choix potentiel des femmes qui pouvaient avoir choisi de donner naissance à l'hôpital, etc. Et puis il y a eu un deuxième moment très, très compliqué, c'est qu'on a fait des cercles de parole et on s'est dit qu'on allait partager nos propres histoires. Et donc Roxane a partagé son histoire en disant qu'elle avait une première naissance qui avait été compliquée parce que bébé en siège, et donc elle avait eu une césarienne, et puis en plus elle a eu des complications, etc., qu'elle avait assez mal vécu, et puis qu'elle avait fait tout ce cheminement pour sa deuxième naissance, où finalement elle a donné naissance à domicile, seule, et où ça s'est super bien passé, enfin seule avec son conjoint et avec sa fille aînée, et avec une birthkeeper. Et du coup, après, c'est moi qui reçois le bâton de parole, et c'est moi qui dois partager mes histoires de naissance, et là, je me sens... très mal prise en fait, parce que je me dis, j'ai devant moi toutes des femmes enceintes, qu'est-ce que je vais leur raconter, ce que je viens de vous raconter, des histoires qui sont pas physio, pas extrêmement positives, etc. Ma première naissance qui était traumatique, j'ai pas super bien vécu, la troisième que j'ai pas hyper bien vécu non plus, du coup voilà, j'ai un peu cafouillé, j'avais pas très bien quoi dire, j'étais pas du tout dans un partage justement du cœur, parce que je me sentais inconfortable par rapport à mon propre vécu quoi. Et en fait après la retraite, on a eu un retour d'une des mamans qui nous a dit, qui a vraiment questionné la manière dont on avait amené les choses, qui a questionné notre posture, et justement ce jugement potentiel par rapport au choix de chacune. Et donc ça nous a fait vachement travailler avec Roxane, on en a beaucoup discuté. Et j'ai pris conscience, moi, que j'avais un malaise. Et c'était vraiment moi, c'était juste moi et moi. Mais que j'avais un malaise dans ma posture d'être... De devoir guider, en fait, faciliter cet espace de retraite prénatale avec Roxane. Et que moi, en fait, je n'étais pas du tout convaincue que toute femme était capable de faire ce que Roxane avait fait. Et ça a été une énorme claque pour moi de me rendre compte qu'en fait, je prônais la naissance... Enfin, je prônais. J'ai toujours été très forte dans la bienveillance et j'accompagne toutes les femmes, quel que soit leur choix, etc. Mais quand même, j'étais convaincue que la physio, c'était mieux. Mais en même temps, en fait, j'en étais pas complètement convaincue. En fait, j'ai toujours été convaincue que moi, je n'aurais pas pu vivre autre chose que ce que j'ai vécu. Et donc que forcément, certaines femmes n'étaient comme moi, pas capables d'avoir une naissance parfaitement physio, et que donc heureusement qu'il y avait l'hôpital, quoi. Et donc vraiment, de guider cette première retraite prénatale, ça m'a permis de prendre conscience de ça et de me dire, mais putain, en fait, je suis pas alignée avec mes propres convictions, quoi. Je défends un truc alors que finalement, j'ai pas complètement confiance dans la capacité des femmes à le faire, quoi. Et voilà, et donc il y a eu un beau cheminement depuis un an par rapport à ça, puisqu'on en est là, on a la quatrième retraite prénatale qui a lieu en octobre, donc c'est un projet qu'on continue avec Roxane et qui est de plus en plus chouette, et on sort de là, mais rempli de cytocine, c'est vraiment génial. Et d'ailleurs, la dernière femme que tu as reçue ici a fait partie de la dernière retraite.
Il est possible qu'elle en ait touché quelques mots.
Ah bien. Je serais curieuse d'entendre ce qu'elle en dit. Mais donc voilà, de mon côté, ça a vraiment fait un truc assez génial, parce que voilà, on s'entend super bien avec Roxane, et donc on en a beaucoup, beaucoup parlé. Et au fur et à mesure de mes discussions avec elle, j'ai réalisé qu'en fait, aujourd'hui, si je devais donner naissance, eh ben je ferais plus pareil. Et à l'époque, j'en étais pas du tout convaincue, et encore il y a 3 ans, j'en étais pas du tout convaincue. Enfin, voilà, je continuais à dire que, quand même, vu que je fais des bébés dystociques, j'aurais peut-être besoin d'un hôpital, etc. Et je gardais cette conviction qu'il y avait un truc qui clochait chez moi, en fait. Mais j'en avais pas conscience. Et donc, d'amener ces espaces de retraite prénatale avec Roxane, et d'avoir toutes ces discussions avec elle, qui a fait ce choix-là, ça m'a permis de encore cheminer, encore tisser l'histoire de ses naissances et de vraiment réécrire certaines choses, de me prendre conscience de certaines choses, mais notamment le fait que j'ai donné le prénom des 2 sages-femmes qui étaient là à la naissance d'Owen à Owen. Mon fils porte les prénoms de ces 2 sages-femmes. Ouais, mais c'est pas ok en fait. C'est comme si elles avaient sauvé... Enfin, c'est pas ok. Je regrette pas de lui avoir donné ces 2 prénoms, hein. Mais en fait, c'est très révélateur de l'optique dans laquelle j'étais. J'étais dans une optique de sauvez-moi. J'ai vraiment vécu l'accouchement d'Owen comme un truc où heureusement qu'il y avait ces 2 sages-femmes, et heureusement que j'étais au cocon et pas à la maison, et qu'est-ce qui se serait passé si... Mais en fait, aujourd'hui, je me dis, mais et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été à la maison? Et qu'est-ce qui se serait passé si j'avais été... juste avec un homme soutenant, qu'est-ce qui se serait passé? J'en sais rien, je vais pas réécrire l'histoire, tu vois, mais je trouve ça interpellant aujourd'hui de me dire, bah oui, j'ai vécu ce que je devais vivre, et oui, la naissance d'Owen est venue réveiller plein de choses, et travailler plein de choses, et tout ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que je suis convaincue que oui, c'est accessible à toutes les femmes, même si moi, je l'ai pas vécu. Mais en même temps, je pense que l'univers fait bien les choses, et que chacune va vivre ce qu'elle doit vivre. Parce que c'est un rite de passage. Et bon, s'il pouvait être... si on pouvait enlever toutes les interventions médicales inutiles, ce serait quand même vraiment pas mal. Mais d'un côté, oui, la médecine, quand même, sauve des vies. Donc, on veut pas non plus cracher dessus. Et donc, je pense qu'il y a quand même des cas où on est vraiment ravis que ça existe et qu'on sauve des mamans et des bébés. Mais c'est pas pour autant que je valide le discours qui vient dire a posteriori « Ah, ben heureusement qu'on était là, comme on a fait pour moi, en fait. » Mais qu'en fait, j'ai validé. Enfin, pendant des années, j'étais... Alors que je disais le contraire aux mamans, j'étais moi-même convaincue que j'aurais pas pu donner naissance autrement. Ça reste un truc, pour moi, ça reste vraiment une question ouverte, ça reste un truc qui m'interpelle. C'est, et si j'avais fait d'autres choix? Je pense que j'étais pas capable de faire d'autres choix. Je pense que j'étais pas prête à faire d'autres choix. Et je pense qu'il y avait en moi des choses inconscientes qui étaient présentes et qui faisaient que je faisais les choix que j'ai faits et que du coup, il n'y a rien à regretter et que j'ai fait tout ce chemin. Mais voilà, je trouve ça vraiment intéressant aujourd'hui de me dire d'avoir pris conscience. Voilà, j'ai relu ce bouquin incroyable il y a quelques temps, Le bébé est un mammifère de Michel Audin. J'adore Michel Audin, il est incroyable. Il est vraiment. Et ces bouquins sont tellement. C'est tellement facile à lire et c'est tellement des claques sur claques sur claques. Tu lis ça et t'es là, mais oui, mais c'est évident. Et vraiment, en relisant le bouquin que j'avais déjà lu il y a des années mais qui m'avait pas du tout fait le même effet. J'ai pris conscience de cette phase de transition que j'ai vécue pour Owen où Michel m'a dit « Mais de quoi est-ce que tu as peur ? Qu'est-ce qui se serait passé si elle ne m'avait pas dit ?» Parce qu'à l'époque, c'était inconscient ce qu'il y avait à l'intérieur de moi, ces histoires d'abus, de lignées, etc. Donc je ne pouvais pas verbaliser quelque chose. Alors, je pense que ça peut être quelque chose d'aidant, dans certains cas, parce que peut-être certaines femmes ont quelque chose qu'elles peuvent lâcher à ce moment-là et que ça permet à bébé de naître. je pense. Mm. Mais moi, en l'occurrence, ça a juste ouvert une brèche sur de l'anxiété plus. Et du coup, comment serait né ce bébé? Est-ce qu'il aurait été dystocique? Et aujourd'hui, j'ai vu plein de vidéos, plein de choses sur les dystocies qui montrent qu'en fait, ça peut être accompagné d'une manière tout à fait naturelle. Qu'une dystocie, c'est juste en fait une épaule qui est un peu coincée, qui a des positions qui aident. En spinning baby, il y a plein de choses qu'on peut faire. Enfin, voilà. Et je me suis, moi, construit une idée que c'était moi qui avais un problème, qu'il y avait quelque chose qui clochait chez moi, que je faisais des bébés dystociques. Des bébés dystociques, comment j'ai pu me dire ça? Alors qu'en fait, non, c'était juste... Voilà, c'est mon histoire, quoi. C'est mon histoire, mais c'est pas moi qui ai un problème. Et je pense que toutes les femmes peuvent faire ce même chemin, et elles le font chacune à leur rythme. Il y en a qui... Alors, 9 mois, c'est court, hein, pour déconstruire tous des trucs inconscients, machin. Donc, si t'as pas commencé le travail avant, bon amusement. Oui. Mais en fait, je pense que... Ouais, de juste aller libérer des peurs, aller travailler sur des choses transgénérationnelles, etc. Bah, ouais... Probablement que ça fait la différence pour certaines. Moi, c'est des choses auxquelles j'étais pas conscientisée avant. Et ça m'a permis de faire ce chemin, quoi.
C'est incroyable. Ton témoignage est vraiment incroyable parce qu'on voit vraiment... Alors, on parle toujours de déconstruction, tu sais.
Ouais.
Alors, moi, ce que j'entends, c'est comme s'il y avait deux voies, en fait. Il y a la déconstruction en termes de connaissances vraiment pures de la physiologie, de la naissance. Et en fait, tout ça qui est en même temps relié... à l'histoire, à tes racines. Enfin là, je parle de toi, mais en fait, c'est pareil pour toutes les femmes.
Mais oui.
Il y a comme deux, il y a deux choses qui vont peut-être à des rythmes différents aussi.
Ouais.
Tu vois, parce que on entend, tu avais lu dès ta première grossesse, Michel Audan, si tu l'as lu, mais est-ce que tu vois tout ce qui est en lien avec tes racines et ton histoire, enfin, tu vois ce que je veux dire?
Tout à fait. Il y a tellement de choses, je pense, qu'on peut comprendre mentalement. Bah, je reviens à ces plans de conscience. Il y a tellement de choses, je pense, que tu vois, que t'as lu, que tu sais, que ta tête sait. Mais tu l'as pas intégré, ton corps, il l'a pas compris, quoi. Il y a quelque chose dans l'énergie que c'est pas ça que tu vibres, quoi. C'est difficile de mettre des mots là-dessus, parce que c'est des choses qui nous dépassent, mais je pense qu'il y a plein de choses qu'on peut... voilà, on peut faire des années de coaching, tu vois, se convaincre mentalement de plein de choses. Si ça a pas atteint un autre niveau, si c'est pas descendu quelque part à l'intérieur... Enfin, ouais, Ouais, et je rejoins aussi ce que tu dis sur l'intime qui est tellement universel, quoi. Finalement, le vécu personnel qui rejoint un truc plus grand, quoi. Et je trouve ça passionnant comme notre propre histoire, elle nous permet de voilà, transmettre quelque chose qui est bien plus large, qui est bien au-delà de nous, quoi.
Merci pour votre écoute. Si vous appréciez le podcast et que vous souhaitez le soutenir, je vous invite à le partager autour de vous, à laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et pourquoi pas à me laisser un petit commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.